11h midi, ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanoff.
Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien de vous retrouver ce lundi sur Europe 1 pour la dernière semaine de cette émission avant les vacances. Oh oui. On est triste, mais on est content.
On est honnête.
Je pleure, mais c'est d'arriver en vacances.
On a besoin de repos. Son corps est ici, mais son esprit est déjà sur la plage. Voilà. Les doigts de pied en éventail, le chapeau de paille sur les yeux et la trace du masque sur le menton.
Malheureusement.
Le juiniste Ben H est là.
Bonjour Anne, bonjour la France.
Elle savait que c'était Anne Hidalgo qui allait être élue à la mairie de Paris. C'est pour ça qu'elle a déjà mis sa voiture sur le bon coin, en vente. La piétonne prévoyante Léa Landau.
Je roulerai jusqu'à crever. Bonjour.
Lui, il est content de savoir qu'il va continuer à vivre dans une ville où on respire mieux et où l'on peut faire de la trottinette sur le périphérique, le Parigo de Nice, Laurent Barra.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et celle qui n'a pas besoin d'être élue maire pour faire l'unanimité dans l'émission, on aimerait tous repartir pour 6 ans avec elle, la seule et unique, Anne Romanoff.
Au sommaire de cette émission, Ben H et Laurent Barra débrieferont pour nous les résultats du second tour des élections municipales. Léa Landau aura un message pour un auditeur un peu spécial. Nous aurons au téléphone Natacha Saint-Pierre qui sortira un nouvel album intitulé Croire le 14 août prochain. Puis nous parlerons des liens familiaux avec l'écrivain David Fuenquinos, auteur du roman Deux Sœurs paru aux éditions de Poche, Folio. Et Léa Landau a justement prévu de surprendre notre invité grâce à l'un de ses proches. Et pour cette dernière semaine, nous vous offrirons chaque jour un séjour Thalasso en 5 étoiles en jouant à notre jeu Devinez qui je suis.
11h midi, Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
Alors la participation au second tour des élections municipales qui s'est déroulée hier a été historiquement basse, est-ce que vous comprenez? Et vous, à quel événement auquel vous preniez part jusqu'à maintenant, vous n'avez plus envie de participer? Laurent Barra.
Oh bah moi, depuis l'arrivée du virus et des gestes barrières, je n'ai plus participé à ces moments d'échange, de tendresse, de communion que j'aimais tellement et qui ne sont pas prêts de revenir.
Vous parlez de nos déjeuners à la cantine d'Europe 1?
Non, je parlais de ma vie sexuelle, Anne Romanoff.
Des moments de communion.
C'est exactement
le mec qui se prend pour un prêtre. Viens communier dans mon corps.
Oui, communion, mon ami. Ben oui, ben... Moi, je suis très embêté parce que là, j'ai potentiellement un rendez-vous là, cette semaine.
Ah, avec une date.
Ouais, et j'ose pas lui dire que...
Que quoi?
Il faut pas qu'elle te touche.
Bah, faut que je vais pas y aller, quoi.
Mais
non.
Pourquoi?
Non, tu peux y aller,
mais
masqué.
Bien sûr.
Ouais, masqué, mais...
Bah oui. Mais, ouais. Mais bien... Mais, attends.
Mais ça va se terminer en bisous, vous me connaissez.
Eh ben, un masque.
Vous me connaissez, je suis à tactile.
Lapin, ça fait du bien de le dire.
Ben H, vous êtes intéressé au second tour des élections municipales?
Eh bien, écoutez, Anne, pas du tout. Non. Comme je me suis souvenu qu'on élisait nos maires, j'étais déjà chez ma mère trop tard. Et le plus dramatique, c'est que visiblement, c'était le cas de 60% des Français. Ils n'étaient pas tous chez ma mère, hein, mais vous m'avez compris. Ce scrutin, c'est comme la dernière tournée de Kinvey. Les Français ne se sont pas sentis concernés par le projet. Comme le résume cette dame dans un reportage que j'ai vu passer, il fait beau, il y a la plage, votez au bronzé, la question, elle est vite répondue. En moins d'un siècle.
Même.
Incroyable.
Elle était dans la mer.
Ouais, décontractée, hyper décontractée. En moins d'un siècle, le suffrage universel est passé de nécessité à en crever à gros sacrifice dans ta journée. Notamment dans les grandes villes. Avec la vague verte, hein, on a bien vu que ces municipales, c'était pas une élection, hein, c'était un sondage pour ou contre le vélo. Moi, j'ai pas les cuisses pour donner mon avis sur ce sujet, alors je m'abstiens. Je voudrais avoir une pensée émue ce matin pour quelques sources d'inspiration pêle-mêle qui nous ont quittés ce week-end. Je voudrais dire au revoir à Gérard Collomb. Adieu Jean-Claude Gaudin. Ciao monsieur et madame Balkany. Petits anges partis trop tôt. Merci pour tout, on ne vous oubliera jamais. Bref, 40% des électeurs ont décidé que les choses devaient changer. Et pour ceux qui n'ont pas voté, faudra pas râler et commencer à pédaler.
Merci Ben H. Laurent Barra, vous voulez vous adresser, vous, à Agnès Buzyn,
oui,
ce matin?
Oui, Anne Romanoff. Agnès Buzyn, bonjour. Alors, en ce lendemain de défaite où plus rien n'a de goût, je vous propose de commencer ma chronique par une introduction musicale sur le thème de l'émotion. Coupez, Madame Buzyn. C'était la bande son de ma chronique consacrée à Anne Hidalgo. Excusez-moi, pardon. Voilà. Agnès Buzyn, qu'il doit être dur ce lendemain de défaite, 14%. J'imagine que depuis hier, vous devez crouler sous les messages de toutes sortes. D'abord les hypocrites. Bichette, t'aurais vraiment mérité de gagner. Les positifs, 14%, c'est pas si mal. Ou alors les plus froids, je suis très déçu. Mais pourtant, j'en suis sûr qu'au fond de vous, vous devez être soulagé. Car aviez-vous réellement envie d'être élu à la mairie de Paris? Vous, la médecin, vous, la ministre de la Santé, qui en pleine crise sanitaire, aviez reçu une étrange mission.
Chère Agnès Buzyn, Benjamin Griveaux ayant déconfiné une partie de son anatomie sur les réseaux sociaux, votre mission, si vous l'acceptez, sera d'être notre candidate à la mairie de Paris. Mission impossible, je vous l'accorde, mais mission acceptée, à laquelle vous aviez répondu « j'y vais avec mon cœur hein, », ce qui est certes plus élégant que d'y aller avec autre chose. Mais bon, ça n'a pas empêché les gens de vous reprocher de quitter le navire en pleine tempête. Heureusement qu'Olivier Véran, votre successeur, avait eu ces mots bienveillants à votre égard.
Je tiens à dire que bon, cette façon, elle est très gentille. Pardon, excusez-moi, c'est pas ça que je suis là. Mais non, je sais pas. Oups, I did it again.
Après, il faut le dire hein, que les Parisiens sont quand même attachés à Anne Hidalgo, à ses combats pour l'environnement, pour la propreté dans Paris. Hein. D'ailleurs, j'en parlais ce matin avec Laura, que j'ai croisée en bas de chez moi et qui semblait clairement se demander ce que je faisais dans sa rue. Et finalement, il n'y a que les Parisiens qui ont une voiture qui vous regretteront. Une candidate en marche aurait pu leur éviter de pédaler. Bonne route, Agnès Buzyn. Et je suis sûr que la plus triste ce matin n'est pas la candidate largement battue, mais la médecin. Car vu le nombre de records d'abstention, c'est toute la politique française qui aujourd'hui est en bien mauvaise santé.
Merci Laurent Barra pour cette analyse politique poussée. Et là, il y a Agnès Buzyn qui nous appelle et qui nous dit, qui nous dit elle vous invite à déjeuner parce qu'elle elle a plus d'agenda dans les jours qui viennent.
Écoutez, si elle a un masque, j'y vais volontiers.
On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission avec Léa Landau, oui. Ben H, Laurent Barra et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner un séjour Thalasso pour deux personnes en jouant à notre jeu « Devinez qui je suis ».
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce lundi, toujours avec Léa Landau, oui. Ben H, Laurent Barra. Voilà. Léa Landau, vous avez un petit message à faire passer ce matin.
Oui, c'est vrai. Voilà, je sais qu'elle nous écoute tous les jours, qu'elle adore. Quand je ne suis pas là, elle écoute aussi. Et donc, je l'embrasse et je lui souhaite un bon anniversaire, maman.
Oui, bon anniversaire, bon... belle maman.
Bon anniversaire, belle maman aussi.
Dites son prénom, comment elle s'appelle ?
Elle s'appelle Danielle.
Bon anniversaire, Danielle. Oui. Et quel âge elle a ?
Alors, elle est née en 52, donc on est en 2020. Elle a 68 ans.
68 ouais. ans, bien.
Donc, on l'embrasse. Hein. D'ailleurs, elle rêve de jouer à deviner qui je suis, je vous le dis, au cas où, s'il
oui,
reste
non,
une place.
Oui, non, ne pistonne pas les gens. Non, non, non.
Mince.
C'est le moment d'autre jeu qui s'appelle comment, Ben H ?
Devinez qui je suis.
Europe 1. Anne Romanoff.
Le principe est simple, deux auditeurs en compétition. Chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de personnalités. Aujourd'hui, c'est la Saint-Pierre et la Saint-Paul. D'ailleurs, ça tombe bien, on reçoit tout à l'heure Natacha Saint-Pierre. Vous devez deviner des Pierre et des Paul célèbres et prénoms composés comme Jean-Pierre ou Jean-Paul. C'est pas très compliqué.
Ça va,
c'est
ça va. Oui, on ça devrait va. S'en sortir.
Oui, oui.
Alors, on vous propose un très beau cadeau cette semaine pour la dernière semaine de l'émission. Je vous propose de partir avec la personne de votre choix pour un séjour de deux nuits à l'hôtel 5 étoiles Thalasso Spa de l'île de la Lagune à Saint-Cyprien, Relais Château, formule petit déjeuner avec deux soins d'hydrothérapie par personne, bordée par la mer, entourée de la montagne, bercée par le doux soleil du Roussillon. L'île fleurie vous attend pour un nouveau voyage empreint de sérénité, de douceur de vivre et à gagner également une tablette facile au tap, pensée pour les débutants en informatique. Aucune fausse manipulation, une interface très intuitive, des fonctions claires. La tablette Facilotable est idéale pour reconnecter la famille. Plus d'informations sur facilotable.com. Et on joue d'abord avec Naïma. Bonjour Naïma.
Bonjour Anne.
Bonjour. Bonjour.
Naïma, vous avez 42 ans, vous êtes aide-soignante à domicile, vous habitez à Proville dans le Nord.
Oui, c'est ça.
Voilà. Mmh. Et vous écoutez l'émission pendant vos trajets quand vous allez chez les gens.
Voilà, exactement.
Et vous êtes en couple depuis 97, vous êtes rencontrés dans une zone commerciale à la boulangerie.
C'est drôle.
En me prenant les chouquettes.
Comment voilà, on rencontre quelqu'un dans une zone commerciale à la boulangerie?
Déjà, vous allez dans la boulangerie, c'est déjà pas mal.
Alors, comment?
En fait, j'étais partie en vacances et puis dans la zone commerciale, il m'a vu passer, il a flashé et il m'a invité à boire un café et voilà. Depuis le temps, ça dure.
C'est génial,
c'est beau, ça.
Oh. Eh ben oui. Hein. Ouais.
Ah ouais. Oui, Anne. On sent un petit peu d'amertume, il y a quelque chose. Non, ça va.
Les cafés qui passent
mais
pas.
Vous avez, invité des fois des femmes à avoir des cafés dans
moi, j'ai un taux de réussite qui commence à être pas mal, mais c'est vrai que je l'ai fait. Je l'ai fait.
Ah oui.
Alors moi, je n'ai aucune crainte là-dessus. C'est-à-dire qu'un râteau, c'est un râteau. Hein. Donc je peux,
tu
avoir,
pas passer une occasion.
Je peux avoir un culot phénoménal. Mes potes hallucinent.
C'est-à-dire, vous dites quoi?
Ah ben moi, il m'est arrivé d'inviter quelqu'un. On était au restaurant avec des copains. De me mettre à la table de la fille, dire voilà, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, l'amour vient de me frapper.
Bah ouais, c'est comme ça. Regard,
mais ça marche.
Ça fait vieille drague des années 80.
Non, bah oui, mais j'ai pas eu un gros héritage, mais mon père, c'est ce qui m'a légué. Comment?
Je dis ça marche hein, de temps en temps.
Mais bien sûr que ça marche.
Vous allez à la table comme ça, mais si elle est avec un mec, vous faites pas ça quand même.
Non.
Non, mais par contre.
Il s'assoit sur les genoux du mec.
Il m'est déjà arrivé, c'est
de
vrai.
De lui faire signe.
J'étais dans un bar et je suis tombé fou amoureux, alors ça m'arrive assez souvent, je vous l'accorde, d'une fille qui était à table avec un gars et le gars s'est levé pour aller aux toilettes.
Et t'es allé la voir.
J'ai dit à mes potes, j'ai dit de toute façon, là je viens d'être foudroyé, ça arrive pas souvent. Je me suis levé, je lui ai dit voilà, je vous embête deux minutes. Je veux juste vous poser une question. Est-ce que vous êtes amoureux du gars pas top ? Est-ce que vous êtes amoureuse du gars pas top qui vient d'aller aux toilettes ? Elle me dit bah non, c'est notre troisième rendez-vous. Et je dis écoutez, moi je viens d'être foudroyé. Voilà. Ça m'arrive pas souvent. Bon maintenant, elles le savent toutes que ça arrive très souvent. Mais voilà.
Et elle a dit quoi ?
On est resté deux mois ensemble.
Ah deux mois, ouais. Juste deux mois, c'est bon.
Ah ouais. Savez, et elle est restée trois ans avec l'autre.
Non mais ouais, je n'ai aucune inhibition parce que de toute façon, c'est des moments qu'il faut saisir. Après, on a, j'aime pas avoir des regrets moi. Il faut pas. Voilà. Au pire, on se prend un râteau. Et alors ? Qu'est-ce que vous voulez
quand t'es une femme, c'est plus compliqué.
Mais pas du tout, pas du tout.
Par exemple, le mec de l'aéroport, j'aurais dû dire quoi ?
Mais en plus, j'étais là pour vous coacher. mais vrai, j'ai essayé de vous appeler, ça je vous reprochais beaucoup dans l'avion, mais pas répondu. Mais non, mais il faut y aller. Il faut dire, écoutez, la vie est courte. Il n'y a rien de mal à dire à quelqu'un que vous le trouvez charmant.
Ah ouais.
C'est pas une attaque, au contraire, c'est quelque chose de valorisant. Au pire, il vous dit, bah, je suis en couple, je suis marié, voilà, bon, bah, tant pis.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, t'en récoltes les fruits, quoi. C'est vrai que...
Les fruits, si j'en avais, je changerais à travers le studio.
Non, oui, parce que pour quelqu'un qui me donne des conseils de séduction, vous êtes un peu célibataire.
J'ai été victime des mesures barrières, et c'est comme ça.
Bon, Naïma, vous jouez avec qui ?
Ben H,
liste 1 ou liste 2 ?
Deux.
Des Pierre, des Paul.
Eh oui.
Et voilà. Des Pierre
et des Paul. Hein.
Et des Jean-Pierre, des Jean-Pierre.
Ouais. Pierre et des Paul.
Attention, top chrono.
C'est le chanteur des Beatles, un des deux chanteurs des Beatles.
Non, j'ai pas.
Bon, on l'a pas. Un cuisinier français très très connu qui nous a quitté assez récemment. Un humoriste qui a fait Il s'aimait avec Michel Larocque. Très proche de Muriel Robin. Oui, c'est le présentateur du JT de 13h sur TF1.
Jean-Paul
Narcy ? Non. Bon, d'accord, ok, en 1972, oui. Un cuisinier qui disait souvent « C'est de la merde !» Grand cuistot qui était à la télé souvent avec des petites lunettes rondes. J'enchaîne les très gros candidats en ce moment.
J'enchaîne les belles imitations.
Alors, soi-disant, moi, je fais perdre tout le monde.
Je fais une fin de saison horrible.
Vous avez pas trouvé Paul McCartney, les Beatles, Jean-Pierre Pernaut, Jean-Pierre Coff et Paul Bocuse. Bon, voilà. Alors, ça, c'est.
Alors, c'est plus facile quand on écoute. Hein.
Oui, ça, c'est sûr, c'est plus facile. Mais enfin, il y avait Pierre Perret dans la liste.
Bah, Pierre Perret,
ouais, quand même.
Jean-Pierre Pernaut, Paul McCartney.
C'est le stress.
Puis ça permet de parler de Jean-Claude Narcy, ça fait plaisir.
Bon, on va, c'est mal parti, une bonne réponse. Hein,
oui.
On va voir comment se débrouille Tom. Bonjour Tom.
Bonjour Tom.
Bonjour.
Bonjour.
Tom, vous avez 23 ans, vous êtes consultant en expérience client, vous habitez à Paris.
C'est ça.
C'est quoi consultant en expérience client ?
Bah, on accompagne des entreprises sur des sujets un peu market, d'expérience client ou de relations client. Donc,
le chômage, quoi, de tout chômage.
Le sujet un peu market.
Ouais, exactement.
Le market, on dit du tofu.
C'est quoi le sujet un peu market ?
On se fait un call à Zap.
Exactement.
On se fait un Zoom, on parle du process dans le market.
Ouais, faut qu'on soit super focus exactement. Sur les équipes market.
En tout cas, vous avez le vocabulaire pour quelqu'un de 23 ans, Tom, ou déjà vous parlez bien le market et le process ?
Bah, on essaye. Hein,
il ira loin.
Tu vas en after work jeudi ou pas ?
Exactement.
Bah, Carrefour Market, surtout.
En plus, vous êtes en couple déjà à 23 ans. Vous êtes un vrai petit adulte alors.
Bah oui.
Depuis combien de temps ?
Ça va faire 4 ans.
Oh là là.
Ah ouais.
Mais il faut vivre un peu là.
Oui.
Bah attends, c'est peut-être la bonne.
Très bien. Hein.
Vous pensez que c'est la bonne ou pas, Tom ?
Bah sûrement, oui.
Mais non. Il va craquer le Tom. Moi aussi, j'étais en couple à 23 ans.
Oui, regardez le résultat.
Non, mais 4 ans, non.
C'est beau, non, mais c'est beau. Une belle histoire qui dure, c'est sympathique. Beau. Et alors, en plus, vous ne vivez pas toute seule avec elle, parce que vous êtes en colocation avec un autre couple.
Exactement.
Le secret du bonheur.
Donc, il y a Rose, Rachel.
On comprend mieux.
Mais non, mais ça doit
vous
être.
Vous voyez venir.
Non, mais ça doit pas être. Moi, j'aimerais pas vivre en colocation avec un autre couple. Non.
Pourquoi ?
Bah, quand t'es jeune. Mais tu peux pas te promener tout nu, tu peux pas.
Si, tu peux.
Parce que moi, déjà, là, avec les gens qui font les travaux, les mecs des travaux qui ravalent ma façade, je ne sais jamais. jamais s'ils sont là ou pas. Donc quand je veux plus être en petite tenue, prendre mon petit déj, enfin attends, d'un coup il y a un mec qui passe devant la fenêtre. Enfin,
surtout que le aussi il est en petite tenue, c'est bizarre.
C'est
quand
même incroyable.
Et en fait ils viennent, un jour ils viennent travailler, un jour ils viennent pas, un jour ils sont là.
Mais demande-leur leur planning quand même, leur emploi du temps.
Mettez-vous plus en petite tenue, ils viendront plus souvent.
Un jour j'étais confortablement dans mon canapé, tout ça, et je vois un mec passer devant ma fenêtre, mais ça va quoi.
Mais attendez, on peut plus trop l'accès tranquille.
Il pourrait avoir une corne de brune pour me prévenir qu'il arrive.
Il fait pas de selfie ou un truc comme ça, non? Non, mais la colocation, c'est bien parce que tu te sens pas seule, justement, des moments.
Oui, mais enfin, tu n'es pas intime, tu peux pas faire l'amour sur la table de la salle à manger.
Si, mais tu étouffes ton plaisir dans l'oreiller.
Mmh. Très gênante.
Et faites l'amour sur la table de la cuisine.
Bon, c'est arrivé, ouais.
Ah oui, mais là, avec des colocataires, on peut pas faire
mais
ça.
Mais ils sont pas toujours là. À 23 ans, on peut le faire. À 23 ans, on est un peu fou, je sais. Mais
tu passes dans la cuisine, excusez-moi, je prends juste un peu de coca.
Excusez-moi, voilà, bon, voilà. Je sais rien.
Bon, Tom, vous jouez avec qui?
Du coup, Ben H a été pris, je voulais le choisir. Mais du coup, il reste. Je vais prendre Anne.
Ah, oh, c'est gentil.
Oh, voilà, puis elle est
bien gagner là.
Non, parce que là, j'ai quand même un espoir de gagner, puisque il faut faire de bonnes réponses.
Voilà. Ah ouais, là, franchement, il y a très peu de chance.
Attention.
C'est parti.
Il y a deux grands acteurs français, Alain Delon, son grand rival, c'est... Il y a un AVC,
Pierre,
vous savez. Mais non, l'autre, Tagada de Soin, le magnifique, un grand acteur français. Oh là là, le fils d'un sculpteur. C'est votre dernier mot. Qui veut gagner des millions? C'est un animateur. Voilà. Et puis, c'est un acteur qui racontait des histoires qui faisait. Un poète, j'écris ton nom.
Non, mais tu mélanges tout.
Un poète, j'écris ton nom.
Fais la deuxième page, la deuxième page.
Liberté, j'écris ton nom.
Paul-Édouard.
Voilà, bah voilà, wow, merci. Wow, wow. Et sans les Jeux Olympiques, ça a été inventé par. Et c'est un noble. L'important, c'est de participer, vous savez.
Pierre de Coubertin.
Oui, mais enfin, de toute façon.
Bon, enfin, il a déjà gagné. Mais enfin, quand même, c'était la panique à bord.
Ah ouais, bah voilà.
J'ai bien fait de changer Paul-Édouard.
Vous avez une imitation de Jean-Paul Belmondo. Tagala Toin Toin. C'est Bozo le clown, quoi. Tagala Toin. Non, mais qu'est-ce que c'est.
Non, non. Jean-Paul Belmondo, le magnifique.
Oui, Tagala Toin Toin.
Le guignolo, le professionnel. Mais si, il disait ça, Tagala Toin Toin.
Oui, oui, il n'est pas comme ça.
Mais bon. Non, il disait ça, Jean-Paul Belmondo.
Franchement, bravo Tom. Hein, parce
ah
que...
oui, alors là.
Bravo Tom. Ouais. Deux bonnes réponses. Et vous avez gagné un petit cri de joie.
Ouais.
Yeah. Vous avez gagné un séjour pour deux personnes de deux nuits à l'hôtel 5 étoiles, Thalasso Spa de l'île de la Lagune, Saint-Cyprien Relais Château en formule petit déjeuner, avec deux soins d'hydrothérapie par personne. Plus d'infos sur hôtel-illagune.com. Et puis Naïma et également Tom, vous avez gagné tous les deux un DVD du film Événement 1917 de Sam Mendes, un film européen qui a reçu 3 Oscars ainsi qu'une tablette facile au table. Donc vous êtes vraiment très gâtés pour cette dernière semaine.
Merci beaucoup.
Passez un bel été, on vous embrasse tous les deux. Continuez à nous écouter. On vous embrasse. Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission 3921, 50 centimes d'euros la minute. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Laurent Barra, oui. Ben H, Léa Londo et notre première invitée, la magnifique chanteuse Natacha Saint-Pierre, qui sortira cet été un nouvel album intitulé Croire.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce lundi, toujours avec Léa Londo, le dernier lundi de la saison.
Oh, oui. Ne le rappelez pas, ça m'attriste.
Et Laurent Barra qui est là.
C'est la fin de la.
C'est la fin, c'est la fin avant le retour.
Mais avant le retour.
En même temps, on décrépit, hein, donc il valait mieux s'arrêter là.
Vous dites ça pour moi ?
Non, je parle pour moi.
Ah, non, vous êtes toute pimpante avec votre petite salopette.
Ah oui, vous aimez bien, il paraît que ça revient à la mode. Alors,
vous l'avez ressorti du placard.
Oui,
en fait.
C'est ça.
Non, ça vous va très bien.
Bah, merci Anne.
Alors, notre invitée par téléphone, elle a été la fleur de lys de Luc Plamondon dans Notre-Dame de Paris, avant de fréquenter la fine fleur de la scène française. Elle a chanté Tu trouveras, elle a trouvé le succès.
Mes blessures et mes faiblesses, celles que je vous cadre-mimons.
Elle a même réussi le tour de force d'être numéro 1 des ventes et double disque de platine avec un album consacré à Sainte-Thérèse de Lisieux. Après plus de 20 ans de carrière et plus de 3 millions d'albums vendus, elle a toutes les raisons de croire au succès de son nouvel album, justement intitulé Croire, qui sortira le 14 août. C'est un ange qui est avec nous par téléphone. La délicieuse Natacha Saint-Pierre est là.
Bonjour, mon Dieu, merci pour cette présentation. Bonjour. J'ai envie d'avoir ça tous les matins.
Ah bah, vous pourrez vous la repasser en boucle, comme ça, ça va faire, on vous l'enverra.
Le podcast est dispo.
Des fois, vous n'avez pas le moral le matin ou vous avez toujours la pêche?
Le matin, non, j'ai plutôt le moral le matin, mais on a tous des journées où on se réveille avec une tête qui mériterait vraiment une coiffeuse et un maquilleur.
Alors, votre nouvel album Croire sort le 14 août, on écoute un extrait. Soir. On peut dire, Natacha Saint-Pierre, que c'est un peu un album spirituel. Il y a des nouveaux poèmes de Thérèse, il y a des textes de Mère Teresa, il y a des nombreux hommages à Marie. Et pour la première fois, il y a deux textes que vous avez écrits vous-même.
Ouais, c'est un album qui est peut-être un peu... j'hésite à dire moins spirituel. Non, il est tout autant spirituel que les autres albums avec les poèmes de Thérèse de Lisieux. Sauf que cette fois-ci, ce ne sont pas des textes sacrés, ce sont des textes qui parlent de femmes, en fait, de femmes inspirantes et inspirées, de mères, de beaucoup de maternité, de cette force de douceur de la femme. Parce qu'aujourd'hui, on revendique beaucoup l'égalité, et je suis pour cette égalité des sexes, mais je pense aussi que la femme a une force, peut-être en plus des hommes, de certains hommes en tout cas, qui est cette douceur et cette capacité de résilience. Et à travers des femmes comme Mère Teresa, comme Thérèse de Lisieux, comme Marie, j'ai envie de parler de tout ça. Et j'ai écrit mes deux premiers textes. Ouais.
Vous chantez avec votre fils dans l'album, on écoute un extrait.
Mon cœur sera ton cœur, ma vie sera ta vie, et bien plus encore, et bien plus encore. Je changerai le monde, je changerai la vie, pour que chaque seconde devienne un infini. Une promesse.
Pourquoi avoir voulu partager une chanson avec lui, Natacha Saint-Pierre?
En fait, la chanson parle de lui, de son histoire. Je la partage avec Thomas Pouzin qui a composé une grande partie de cet album, qui fait partie du groupe Glorious. Je voulais parler de mon fils qui a une histoire un peu particulière, qui est malheureusement l'histoire d'un enfant sur 100 au monde qui naît avec une malformation cardiaque. Et ce titre, Mon cœur sera ton cœur, parle de tout ce que le cœur d'une maman peut vouloir faire pour son enfant, d'un point de vue figuré, mais aussi d'un point de vue plus littéral. Si j'avais pu, à sa naissance, lui donner un bout de mon cœur pour que le sien fonctionne, je l'aurais fait. C'est un combat que mènent malheureusement beaucoup trop de parents et beaucoup trop d'enfants encore aujourd'hui.
Il y a votre vie privée qui est heureuse. Vous avez connu votre compagnon Grégory, vous l'avez connu à Djibouti lors d'une chasse au trésor. C'est curieux pour rencontrer quelqu'un, ça, non?
Pas tous les jours, ouais. Oui, c'est vrai. Tinder, c'était pas assez original.
j'ai une vie assez particulière. J'ai l'impression qu'on met sur ma route des gens toujours dans des situations un peu étranges. J'ai rencontré Pascal Obispo qui m'a mis le pied à l'étrier de la musique française sur un plateau d'émission de télé. Je devais rentrer au Canada et je voulais plus faire de musique. Et Pascal m'a proposé d'aller boire un café chez lui le soir même pour pouvoir me faire écouter les chansons. Et c'est ce qui a fait que j'ai chanté « Tu trouveras, mourir demain » et tout le reste. À chaque fois que quelqu'un arrive dans ma vie, c'est jamais le bon moment, c'est jamais de manière ordinaire, mais à chaque fois, je suis contente de vivre ces expériences humaines-là. Ouais.
Parce que si vous aviez refusé d'aller boire un pot chez Pascal Obispo, vous seriez retourné au Québec et vous vouliez tout arrêter à ce moment-là.
Tout à fait. Tout à fait. Moi, je voulais arrêter la musique parce que pour moi, chanteuse, ce n'était pas un métier, mais un passe-temps. Et j'avais les débuts de la vingtaine et je me disais, bon, il faudrait peut-être que tu te trouves un vrai métier maintenant et que tu arrêtes de faire les troubadours. Et je voulais rentrer au Canada et je voulais devenir infirmière et passer à autre chose, à une vie d'adulte, en fait.
Comme quoi, faut arrêter d'être trop méfiante. Parce que moi, un producteur me propose d'aller prendre un verre chez lui le soir où je le rencontre et j'ai 20 ans, je suis toute fraîche, j'y vais pas, hein.
Oui, mais bon, c'était vraiment fait de manière très saine et très correcte.
Vous le remerciez du coup, Natacha Saint-Pierre, d'avoir eu cette intervention dans votre vie, Pascal Obispo, parce qu'il a changé votre vie encore.
Ah ben, il a changé ma vie. Pascal a eu une très très grande importance dans ma vie. Il a déjà fait des chansons qui m'ont propulsée au devant de la scène, mais c'est aussi le premier qui m'a appris à justement pouvoir dire non à des producteurs. J'avais à l'époque un producteur qui était un peu abusif, et c'est Pascal qui m'a défendue.
Un peu autoritaire, quoi. Comme ce il vous considérait comme une poupée.
Ah oui, non, mais je chante. Exactement.
Vous n'aviez pas votre mot à dire, quoi.
Il gardait mes sous, d'ailleurs.
Hein. Ah, il gardait vos sous, en plus. D'accord.
Pas du tout. Ouais. Et c'est Pascal qui m'a aidé à me sortir de toute cette situation et qui m'a appris que même si j'étais jeune dans le métier, même si j'étais face à des gens qui avaient plus d'expérience que moi, j'avais le droit d'avoir une opinion.
Alors, j'imagine donc que depuis quelques années, vous faites tous les jours ou presque une salutation au soleil. Est-ce qu'il y a une autre salutation que vous aimeriez faire ce midi à quelqu'un, par exemple?
Ah, j'adore. Oui, j'ai envie de saluer toutes mes copines que je n'ai pas vues pendant le confinement, qui ont repris le travail et leur vie de maman et qui courent dans tous les sens et que je n'ai pas encore réussi à voir. Je m'ennuie d'elles et j'ai hâte de les voir.
Ça, c'est un joli message. Ouais. Ben, j'ai une question pour vous.
Oui, les événements récents m'ont fait repenser à votre célèbre chanson « Si on devait mourir demain », chantée à l'époque avec Pascal Obispo. Suite à cette expérience de pandémie, vous rajouteriez quelque chose à la liste des choses que vous voulez absolument faire avant de mourir demain ?
J'avoue que en ayant eu un enfant qui a failli mourir à la naissance et dont la survie n'était pas garantie, on se remet assez en question à ce moment-là de notre vie. Et je pense que c'est là où j'ai décidé de vivre vraiment au jour le jour, en n'hésitant pas à dire aux gens que j'aime que je les aime, même si ça a l'air un peu cucu la praline, et en n'hésitant pas à être heureuse pour des petites conneries. Donc, je pense que si je devais rajouter quelque chose sur une liste, ce serait faire attention à toutes ces petites conneries qui peuvent nous rendre heureux et qu'on prend des fois ou pour acquis ou qu'on trouve un peu trop cucu.
C'est un joli message. Laurent Barra, une question pour vous.
Natacha Saint-Pierre, bonjour. Alors, votre nouvel album s'appelle Croire. Moi, je suis assez croyant. Je dis ça parce que j'étais très content de votre venue ce matin dans nos locaux. Je croyais vraiment que j'allais enfin avoir la joie de vous rencontrer et vous n'êtes pas là. C'est une belle déception. Est-ce que quand même vous croyez en deux jours meilleurs malgré tout ce qu'on vient de vivre ?
Ah oui, je pense que notre monde est en train de changer, mais je pense que l'humain a une capacité d'adaptation phénoménale et qu'on saura s'adapter à ce monde qui change. Et j'espère qu'on saura s'adapter en changeant nous aussi et en changeant nos habitudes et peut-être ralentir tous ces changements climatiques qui amènent des virus, qui amènent des disparitions de population, qui amènent énormément de drames. Donc oui, je crois en l'humain aussi et en notre intelligence.
Et vous croyez qu'on va se rencontrer quand même un de ces jours?
Mais je crois que déjà, accroché. Là, dans un monde 2.0, on se rencontre.
Oui. Dans un monde 2.0, on se rencontre.
Mais elle ne tient pas à vous rencontrer spécialement, Laurent Barra.
J'ai bien compris, Anne, merci. Je retourne dans mon tunnel.
Natacha Saint-Pierre, on rappelle votre album Croire qui sort le 14 août, un album spirituel. Et puis on a écouté donc le premier extrait de l'album Viens, sois ma lumière. Merci beaucoup Natacha Saint-Pierre d'avoir été avec nous. Portez-vous
merci
bien.
Merci à vous pour ce beau moment.
On vous embrasse.
Au revoir. Merci.
On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Ben H, Léa Landau, Laurent Barra. Et notre invité jusqu'à midi, l'écrivain David Fuenquinos, qui vient de sortir en poche son roman Deux sœurs.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce lundi sur Europe 1, toujours avec Léa Landau.
Bienvenue.
Ben H, Laurent
Barra.
Et notre invité dans le studio ce matin, c'est un écrivain passionnant et passionné qui jouit d'une renommée internationale. C'est un scénariste prometteur, un réalisateur en devenir nommé au César. Il collectionne les prix littéraires comme Balkany collectionne les pulls roses. Le prix Roger Nimier, le Renaudot, le Goncourt des lycéens en 2014 avec Charlotte. En 2001, il a tout chamboulé notre petit cœur Guimauve avec le roman La Délicatesse, adapté par la suite au cinéma par lui-même. Il vient nous parler de son roman Deux sœurs qui vient de sortir en livre de poche. Alors accueillons-le dans l'émission comme un frère. L'écrivain David Fuenquinos est avec nous ce matin.
Bonjour. Merci pour cette belle comparaison de
pulls roses. C'est classe, hein, comparé à Balkany.
Ça m'a fait plaisir. Hein. J'ai atteint une sorte de consécration. Là.
Alors, vous êtes heureux en ce moment, David Fuenquinos. Les librairies sont ouvertes, les musées, les cinémas. Vous pensez que la culture est de retour?
En tout cas, c'est progressif. J'avais aussi des pièces de théâtre qui ont été arrêtées cette
année.
Oui, qui
ont plein succès en plus.
Voilà, qui marchaient bien. Elles vont peut-être reprendre normalement. Il y avait 10 ans après avec Bruno Solo, Julien Boisselier et Mélanie Page. Et amis avec Anne Mérade, Claudia Tagbo et Lionel Abelansky. Et c'est vrai, voilà, on espère que voilà, ça va reprendre à la rentrée. Mais c'est vrai que c'est progressif et c'est normal. Mais on a vu que les gens retournaient au cinéma et ça fait plaisir. Oui.
Vous venez de publier aux éditions Folio votre roman qui était déjà sorti. Là, c'est en livre de poche. Deux sœurs, c'est important au moment où le livre sort en livre de poche ?
Ah, c'est très important. Moi, le livre de poche a changé ma vie parce que c'est vrai que le succès de La Délicatesse s'est fait en poche. Et c'est vrai qu'on peut toucher un public plus large. C'est vrai que les livres sont parfois assez chers.
Il n'avait pas marché en normal ?
La délicatesse, il avait un petit peu marché, mais
pour
c'est
arriver
vrai que,
en poche, faut que ça marche.
Oui, voilà, faut que ça marche un petit peu pour arriver en poche, mais c'est vrai que à l'époque, c'est un livre qui a changé ma vie, qui a dépassé 1 million d'exemplaires et qui m'a donné une grande liberté après de pouvoir vivre de l'écriture. Et c'est vrai que c'est le succès est venu avec l'édition poche.
Oui, surtout que vous n'aviez pas de succès avant, c'était un peu.
Non, jusqu'au 8e roman, La délicatesse était assez confidentielle, mais j'étais très heureux quand même. On me regardait pas comme ça.
Ce regard de la loose que vous.
Vous aviez quel âge quand le succès est arrivé?
J'étais à 36 ans.
Bah c'est bien.
J'ai plein de choses. Moi, à 16 ans, j'étais gravement malade. À 26 ans, j'ai publié mon premier roman. À 36 ans, j'ai eu du succès. Et l'année prochaine, je vais avoir 46 ans. Donc, on va se revoir pour voir ce qui se passe.
Vous êtes inquiet ?
Un peu, oui.
C'est vrai ?
Non, non.
C'est un truc que vous mettez
dans
votre tête ?
Non, mais je sens qu'il va se passer quelque chose à 46 ans.
Ah oui ? Tous les 10 ans, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe ?
Je sais pas, je vais peut-être co-animer une émission avec vous. C'est pas un cap dans ma vie professionnelle.
Alors donc ce roman Deux Sœurs qui sort aux éditions Folio, on pitch l'histoire, ça vous dérange pas ? J'adore pitcher, dans le sud on m'appelle Pitchounette.
Pitchounette.
J'attends avec impatience.
C'est l'histoire donc de Mathilde qui se fait quitter du jour au lendemain par Étienne après 5 ans de relation. Hein, en langage pas littéraire, elle s'est fait larguer comme une merde. Voilà. Et pour elle, le monde s'écroule, mais sa sœur Agathe la recueille dans son appartement où elle vit avec Frédéric, son mari, et sa fille Lily. Vous trouvez ça intéressant, les relations sœur-sœur, David Fuenquinos ?
D'abord, bravo pour ce pitch remarquable. Franchement, c'est la première fois que je comprends mon histoire d'une manière si
limpide.
Si limpide. Je trouvais que c'était... Il y a deux thèmes dans le livre. D'abord, c'est vrai que je traite dans la première partie d'une douleur amoureuse, d'une rupture amoureuse extrême, atomique, qui est vraiment... Voilà, c'est une dévastation. Mon héroïne n'arrive plus à avancer. Elle est comme amputée d'une partie de sa vie.
Vous avez connu ça, une rupture violente ?
Non, pas à ce point-là. Vraiment. Mais je crois que parfois aussi, on peut comprendre les choses en vivant le contraire, en ayant la peur de perdre des choses qu'on aime.
Vous n'avez pas vécu ça parce que,
en fait, quand vous
souffrez, vous faites un livre. Donc, en même temps, c'est des ruptures rentables. Quoi, c'est ça.
Mais pas... c'est des ruptures rentables. Après avoir été comparé à Balkany... non, écoutez... Non, mais parfois, au contraire, moi, j'ai parfois écrit en étant heureux. J'ai parfois écrit des livres douloureux comme Charlotte, qui était le destin tragique d'une peintre allemande, en étant dans un moment plutôt joyeux de ma vie. Donc, ce n'est pas forcément lié. Le deuxième thème, en fait, celui qui m'excitait davantage encore, c'était l'idée que quand on va mal, on ne supporte pas le bonheur des autres. C'est vrai qu'elle est cette héroïne.
Ça, c'est vrai.
Cette héroïne, voilà, ça, c'est vrai. Ça vous parle, oui. Cette héroïne, elle se réfugie chez sa sœur, qui l'accueille, qui l'héberge, parce que sa sœur est totalement dévastée par cette rupture amoureuse. Et elle ne va pas supporter de voir le bonheur au quotidien de sa sœur, qui nage en plein bonheur avec son mec, qui vient d'avoir un enfant. Et finalement, elle se dit, mais pourquoi pas moi ? Elle a le sentiment que c'est le film de sa vie qu'elle aurait voulu vivre, qu'elle devait vivre. L'idée que elle est totalement dévastée, mon héroïne, mais finalement les rapports familiaux, il y a une sorte d'obligation d'entraide, elles sont pas forcément proches, mais elle voit bien que sa sœur de toute façon ne peut plus avancer après cette rupture amoureuse, est complètement perdue et complètement dévastée, et finalement il y a une obligation d'aller s'occuper de sa sœur. Se sentir mal, c'est une chose, mais avoir comme ça le bonheur des autres qui vous saute à la figure en permanence, ça peut rendre un peu dingue. Et c'est vrai que c'est un peu le sujet de sœur, puisqu'elle va déraper progressivement jusqu'à aller très loin. Non, ne pitchez pas la fin.
Ah, je ne dis rien. Vous avez vu comment je suis...
La pitchounette, la pitchounette, bien sûr.
Ça serait spoilionnette, comme on pourrait dire. Ça existe pas.
On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec notre invité David Fuenquinos, venu nous parler de la parution en poche de son roman Deux Sœurs. Un thriller psychologique.
Très bien.
C'est bien résumé par Pitchounette. Ne bougez pas, on revient.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce lundi avec Léa Lombé, oui. Ben H, Laurent Barra et notre invité dans le studio, David Fuenquinos. Alors, il paraît, David Fuenquinos, que pour votre premier roman, Inversion de l'idiotie, quand les éditions Gallimard vous ont appelé, vous avez cru que c'était un canular ?
Oui, parce que c'est vrai que j'écrivais dans mon coin et puis je me suis dit, bon, je vais tenter. J'ai envoyé à plein de maisons d'édition, tout le monde a refusé mon premier roman. Et puis plusieurs mois après, j'ai reçu un appel du comité des éditions Gallimard. Donc effectivement, j'ai cru que c'était une blague. Et tant que je ne suis pas allé rencontrer cet éditeur...
Donc vous avez dit, arrête tes conneries, qu'est-ce que vous avez dit ?
Non, mais en fait, au moment d'arriver chez Gallimard, je me suis dit, mais en fait, ça se trouve, c'est quelqu'un qui a fait une blague. Ouais. Donc quand je suis arrivé à l'accueil, j'ai rendez-vous avec Jean-Marie Laclaftine, qui était donc cet éditeur qui a changé ma vie. Je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être un gros mytho. Et
non,
j'avais vraiment...
Pas.
Et ce cet éditeur, voilà, avait écrit, en fait, j'ai vu la fiche de lecture plus tard, il avait écrit à propos de mon premier roman, c'est foutraque, c'est bordélique, mais ça vaut le coup d'essayer.
C'est bon, joli,
voilà.
C'est joli.
Mais c'était assez étonnant d'être refusé partout et que les éditions Gallimard, qui sont
le top du top, vous
voilà,
acceptent.
C'est assez prestigieux, voilà. C'était comme prendre des râteaux toute une soirée, puis voilà. Non, je laisse tomber cette métaphore.
Non, mais c'est ça, c'est quand on n'y croit plus qu'on trouve. Mais là,
exactement.
Donc là, je vais bientôt trouver, parce que j'y crois plus. Voilà. Léa Landau a des questions pour vous, David Fuenkinos.
Oui, David Fuenkinos, j'ai préparé une interview, la minute Fuenkinos. Voilà, donc j'ai une minute.
Vite.
Ouais, oui. Voilà, j'ai une minute pour vous poser des questions. Vous répondez rapidement et sincèrement. David Fuenkinos, parmi tous les livres que vous avez écrits, lequel vous préférez?
Charlotte.
D'accord. Dans vos livres, est-ce que vous êtes inspiré parfois de vos amis ou de votre entourage pour les personnages principaux?
Jamais.
Jamais?
Jamais.
Ok. David,
c'est vrai, ça?
À part vous, peut-être.
David Fuenkinos, avez-vous une idée de film que vous ne ferez jamais? Si oui, c'est quoi le pitch ou la pitchounette?
Non, j'ai déjà abandonné des projets, mais c'est pas plus mal.
Ouais.
Non, j'ai pas. Non, si vous j'ai une bonne idée, je vais pas vous la donner.
Citez-moi un autre David célèbre que vous admirez.
Beckham.
Ah. Oui. Pour sa femme?
Pour les cheveux?
Non, pour lui.
Quelle est
non, c'est vrai que j'aurais dû. Il y a plein d'écrivains, j'aurais dû dire David Lynch. Enfin,
non,
voilà.
C'est vrai, ça vous brillant, mais bon. Un peu, c'est bien un footballeur.
Non, non, mais c'est le début d'émission, ça m'a un peu rabaissé intellectuellement. Et du coup. Ça
y est. Quelle est la chanson que vous fredonnez le plus souvent, David Fuenkinos, sous la douche ou ailleurs?
L'amour en fuite, Alain Souchon.
Ah oui,
oui.
Vous nous la chantez?
Bon,
les paroles, c'est... les paroles sont pas...
Bon, lisez plutôt mes livres, vous n'êtes pas là pour écouter mes chansons.
Si vous deviez
oui,
écrire...
les paroles, non, oui, les paroles, elles sont tellement belles. Caresses photographiées sur ma peau sensible.
Oh, si vous deviez écrire un film avec Anne Romanoff, ce serait pour quel genre de rôle?
Dramatique.
Ah ouais?
Ouais. Dramatique. Ah. Il lui faut son petit ciao pantin. Ouais.
C'est vrai.
Un truc bien dépressif.
Allez, ciao, pitchounette.
Non, mais les gens connaissent faut pas ce côté d'Anne Romanoff, mais c'est vrai qu'elle a un petit côté dépressif et je crois qu'il faut le.
Non. Là, ça va en tout cas. Hein, ça va, hein? Non. Ah, on est bien là.
Là, on est presque au top de la forme. Allez, David Fuenkinos, c'est le moment de la question surprise.
Bon, David. J'espère que Anne Romanoff et son équipe n'en ont pas marre de toi, parce que moi, à leur place, je crois que j'en aurais un petit peu marre. Et justement, à propos de ça, est-ce que toi, tu en as marre que je te fasse des imitations? Et si oui, laquelle?
C'est votre frère?
Ouais,
c'est mon frère. Stéphane. Et alors, cette émission me permet de faire un petit break dans notre prépa, parce qu'on se voit 24 heures sur 24 en ce moment. Et c'est vrai qu'il est hyper fort en imitation. Alors le problème c'est que il s'arrête plus quand il commence et donc j'ai eu pendant des années Catherine Deneuve.
Il le fait
très très bien.
Non mais ce qui est intéressant c'est que vous vous connaissez très très bien parce qu'il était sûr que vous répondriez en premier. Catherine Deneuve, écoutez.
Eh ben voilà, j'étais sûr que t'allais dire ça. Bon ben, tant pis pour toi, je te le ferai plus jamais.
Voilà, mais faut voir avec les gestes, il fait avec la cigarette.
On embrasse Stéphane.
Et il est très très fort pour les imitations.
Merci beaucoup, David Fuenkinos.
Avec plaisir.
Merci, David Fuenkinos. C'était un plaisir de vous recevoir. Passez un bel été.
Et ben vous aussi.
On rappelle votre livre « Deux sœurs » qui vient de sortir aux éditions Folio en livre de poche. C'est très bien pour l'été, pour la plage.
Oui, c'est parfait.
Et puis, on peut relire Charlotte, ce livre magnifique. Merci beaucoup,
merci
David Fuenkinos.
Merci à vous.
Bien. Tout de suite, le journal de la rédaction La France Bouge avec Elisabeth Assayag. Et nous, on se retrouve dès demain à 11h sur Europe 1.